Gloire à Dieu. Nous allons parler de l'endurcissement du cœur. Il y a des moments où on se demande pourquoi une parole est acceptée par une personne et pas par une autre. Et moi, ça faisait partie de mes soucis de me dire, mais pourquoi les gens refusent Dieu et acceptent quand même tranquillement comme ça d'aller en enfer? Est-ce qu'il n'y a pas une compréhension? Parce que je ne me voyais pas, on ne se voit pas accepter tranquillement d'aller à la destruction, d'aller dans le feu éternel. Et on se pose des questions. On dit, mais pourquoi les gens sont fermés à la parole? Pourquoi un tel a compris, pas un autre? Et dernièrement, on m'a donné la réponse par le Seigneur, c'est l'endurcissement du cœur. Le cœur peut s'endurcir de sorte que quelque chose qui est clair devienne flou, devienne compliqué à avaler. C'est l'endurcissement du cœur. C'est une réalité. C'est ce qui explique que malgré le fait que les choses de Dieu soient très claires, soient présentées simplement, il y a des gens qui traînent encore et qui finissent par s'habituer, parce que c'est le grand danger, c'est celui-là. On finit par s'habituer à la parole de Dieu, on finit par s'habituer à la présence de Dieu et ça ne nous fait plus rien. On s'est endurci. Et quelque chose qu'on devait comprendre, on ne le comprend plus. C'est l'endurcissement du cœur. Nous allons lire d'abord dans Hébreux 3, 7 à 8. Hébreux 3, 7 à 8. On pourra même aller plus loin, mais commençons d'abord par les deux premiers versets. Hébreux 3, 7 à 8, où il est question de l'endurcissement. Hébreux 3, 7 à 8.
Lisons la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 3, à partir du verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert.
Voilà. Que dit le Saint-Esprit? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le cœur peut s'endurcir à la voix de Dieu. Et nous pouvons continuer jusqu'au verset 19.
Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.
L'apôtre nous explique que, autrefois dans le désert, les enfants d'Israël ont manifesté de l'endurcissement de cœur. Ils ont vu, ça nous montre en même temps le processus de l'endurcissement, ils ont vu les œuvres merveilleuses du Seigneur, ils ont vu le miracle du Seigneur, mais ils ont refusé d'écouter sa parole, ils ont refusé d'accepter sa parole qui venait avec simplicité. Ils ont résisté et ils se sont endurcis au point que Dieu a décidé qu'ils n'entreront plus dans la terre promise. L'endurcissement amène à la perte. L'endurcissement, il est progressif. Dieu fait des choses, on ne cède pas. Ça nous rend plus durs qu'avant. Et pour qu'on puisse céder, il faut encore une puissance supérieure. C'est ce qui explique, bien-aimé, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, où les gens sont dans des églises où on demande des offrandes, 1 000 euros, 500, on cite ceux qui sont des 100 viennent, ceux qui ont 50 qu'ils viennent. Mais on se dit, mais comment ça arrive de telles choses? Mais c'est l'endurcissement. Les gens résistaient à la parole de Dieu toute simple pendant un moment et finalement leur cœur est devenu dur, leur intelligence s'est obscurcie. C'est ce qu'on va lire. Ça s'est obscurci et ils ne comprennent plus ce qui est élémentaire. C'est que même parfois un païen arrive à saisir et il ne voit plus ça. Parce qu'il y a l'endurcissement du cœur. Même un chrétien peut s'endurcir dans son cœur. C'est une réalité. Nous lisons dans Matthieu 13, 15 à 17. Matthieu 13, 15 à 17. Ça va nous éclairer encore sur ce concept d'endurcissement.
Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13. À partir du verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
Voilà. La parole nous dit quoi? Verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. L'endurcissement amène l'insensibilité. Tu deviens dur et tu ne ressens plus les choses. Tu ne ressens plus la chaleur, tu ne ressens plus le froid, parce que tu t'es endurci. Tu deviens insensible. C'est ce qui explique que parfois des choses simples ne sont pas acceptées par certaines personnes, parce que leur cœur s'est endurci, ils sont devenus insensibles. Mais d'où ça vient? C'est par les résistances continuelles vis-à-vis de Dieu. On résiste à la parole aujourd'hui. Demain, on résiste encore. Et certains choisissent des versets. Ils croient en certains versets, pas à d'autres. Ils augmentent leur résistance et ils tombent dans l'endurcissement. Et à un point où les choses simples ne sont plus captées par eux. Ils ne comprennent plus. Et parfois, nous sommes les premiers à dire, mais ce n'est pas de leur faute. Ils ne comprennent pas. Mais comment ils sont arrivés à ne pas comprendre? Osée 4, 6 nous le dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ça ne s'arrête pas là. La suite, c'est parce que tu as rejeté la connaissance, tu as rejeté la loi. Je te rejetterai. Comment vient l'insensibilité? Lorsqu'on rejette progressivement, petit à petit, on rejette la parole de Dieu. On rejette l'expression divine petit à petit. on s'endurcit. Et quand ça viendra un moment où une chose simple, claire, pour toi, ça ne te fait rien. C'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Jésus a fait des miracles que seul Dieu pouvait faire. Mais ils étaient devenus insensibles. C'est ce qui est écrit là, c'est ce qu'on vient de lire. Ils étaient devenus insensibles. Parce qu'ils ont résisté progressivement. Au point que quelque chose d'évident est devenu pour eux difficile à comprendre. C'était évident que Jésus était le Fils de Dieu. Par tout ce qu'il faisait, par son comportement, par son attitude. Mais pour les pharisiens, c'était devenu lointain parce qu'ils étaient devenus insensibles. L'endurcissement. Nous allons lire Éphésiens 4, 17 à 19. Éphésiens 4, 17 à 19.
Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité.
Voilà ce que dit la parole. Les gens que nous voyons ont le cœur endurci. Ce n'est pas par incompréhension. Parce que pendant un temps, je me suis dit, mais Seigneur, mais s'ils ne comprennent pas, comment ils peuvent être sauvés? C'est vrai. Mais pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que leur intelligence s'est obscurcie. Comment? Par endurcissement. Donc, quand ils pouvaient comprendre, ils n'ont pas cédé. Quand ils pouvaient saisir la parole de Dieu, ils n'ont pas cédé à Dieu. Automatiquement, ça a créé un endurcissement, une résistance. Et au fur et à mesure, leur intelligence s'est obscurcie. Ce qui est simple n'est plus simple pour eux. Ma prière aujourd'hui, c'est Hébreux 3 qu'on a lu au départ. Aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Écoutons l'avertissement du Seigneur, Proverbe 29, 1. N'endurcis pas ton cœur. Voilà ce que Hébreux 3, 7 à 8 dit. Aujourd'hui que tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas où ça va finir. Quand tu saisis, quand la parole peut encore être claire pour toi, humilie-toi et demande l'aide de Dieu. Viendra un temps où la parole ne sera même pas claire. Donc on dira des choses claires, pour toi ça ne sera pas clair, parce que ton cœur s'est vraiment endurci. Proverbe 29, verset 1er.
Lisons la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède.
Voilà. Un homme, dans cette version qui s'est dit, qui mérite d'être repris et qui raidit le coup, mais dans notre version, c'est dit, un homme qui est régulièrement repris et qui raidit son coup sera brisé sans remède. Et tu es debout. On essaie de te pousser avec une certaine force légère pour te dire, monsieur, dirigez-vous dans ce sens-là, dans le sens vers le nord. Tu résistes. Les forces publiques vont augmenter la force. Ils vont essayer de te pousser un peu plus fort. Tu résistes. Ben, ils vont augmenter encore la force. Viendra un moment où leur force et ta résistance vont faire que tu vas casser. Parce que leur force peut s'augmenter indéfiniment. C'est la force publique. Elle a beaucoup de ressources. Toi, tu es qu'un homme. Elle peut te casser. Au début, on te pousse un peu. Tu résistes. La force publique augmente la force. Et jusqu'à ce que, à un moment donné, ta résistance va conduire à ce que tu casses. Comme un arbre qui est déraciné par le vent qui est très puissant. Tu casses. Il y a des arbres qui se cassent parce qu'ils ont résisté au vent. Un homme que le Seigneur reprend régulièrement. Il résiste, il endurcit son cœur. La Bible nous dit ceci, il sera brisé sans remède. Sans remède. N'endurcissons pas nos cœurs. La parole qui est claire pour nous doit nous servir. Lorsqu'elle ne nous sert pas, elle devient une source d'endurcissement. C'est pourquoi dans la Bible, on dit dans certains endroits, Dieu a endurci le cœur d'un tel. En réalité, Dieu a fait un acte. Il s'est exprimé. La personne a résisté. Et elle, c'est un processus spirituel qui crée cet endurcissement-là. Mais on dit que c'est Dieu, puisque c'est Dieu qui a fait le premier acte. C'est lui qui a fait le miracle. C'est lui qui a parlé. Et toi, quand tu résistes, c'est comme si c'est Dieu qui t'endurcissait, mais c'est toi-même, puisque le cas qu'on connaît le mieux, c'est le cas de Pharaon en Égypte. On dit, dans certains endroits, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais dans beaucoup plus d'endroits, on dit plutôt Pharaon endurcit son cœur. Il s'est endurci lui-même. Donc quand on dit que Dieu l'a endurci, ça veut dire que cet homme-là a résisté à l'expression divine et l'endurcissement est venu sur lui. Ce n'est pas que Dieu l'a délibérément endurci. Cet endurcissement vient de l'action divine, mais c'est lui qui, en résistant, a produit cet endurcissement-là. Quand la parole est claire, il faut l'accepter. Quand on ne l'accepte pas, ça finit mal. Vous savez, les gens aujourd'hui qui sont devenus esclaves de l'argent dans le milieu chrétien, ils ont refusé d'accepter une parole qui est claire. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Au début, on donne toutes sortes de prétextes en disant, mais oui, il faut des investissements pour financer le studio, il faut de l'argent pour financer l'édition, la publication. Mais le problème, en s'endurcissant comme ça, on finit dans des extrêmes catastrophiques qu'on voit aujourd'hui, où les rencontres avec les pasteurs deviennent payantes, les séminaires payants, les concerts payants, les CD payants, tout devient payant, mais tout a commencé par une résistance à une parole qui est claire dans la parole. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On a résisté à ça. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, au point que les gens du Seigneur ne sont plus crédibles dans le monde puisqu'on les considère comme des commerçants, des malfrats. Aujourd'hui, quand tu entends la voix de Dieu, ne résiste pas. Demande plutôt de l'aide. Beaucoup vont dire, c'est vrai, j'ai entendu sa voix, mais j'ai du mal à appliquer ce que cette voix-là dit. Alors demande de l'aide. Dis, Seigneur, aide-moi. Il est prêt à t'aider. Repens-toi, reconnais tes erreurs et demande l'aide du Seigneur. Mais quand tu cherches à te justifier, ah oui, mais c'est à cause de ceci que j'ai fait cela, tu ne fais que t'endurcir. Et tu vas atteindre des extrémités d'où personne ne peut te tirer. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà ce que dit le Seigneur. Le processus d'endurcissement, c'est comme ça que ça se passe. Dieu vient s'exprimer clairement pour toi. Mais tu trouves des justifications. Mais tu trouves des excuses. Mais tu trouves des échappatoires, comme on dit, alors que la parole est claire. Eh bien, sache que cette parole qui était claire là ne sera plus claire pour toi. Il faut encore une plus grande puissance pour que tu vois un peu les choses. Et Dieu va augmenter la puissance. Tu trouves encore des échappatoires. Ton endurcissement ne fait que gonfler. De sorte que quand il viendra avec son maximum, tu es déjà trouvé dur, tu ne peux pas accepter. ton cœur s'est endurci. Attention, bien-aimé. Celui qui résiste sera brisé sans remède. Sans remède. Nous lisons dans Luc 7, 30. C'est le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un vrai prophète du Seigneur. Il a marché dans la vérité. Il est habillé en peau d'animaux. Il mangeait des sauterelles et du miel. Il était pur. Il disait la vérité au point que même les voleurs ont reconnu que Jean-Baptiste était un vrai prophète du Seigneur. Les soldats, tout le monde a reconnu cela. Mais il y a une caste de gens qui a résisté à la voix de Dieu à travers Jean-Baptiste. Écoutons ce que dit le Seigneur. Luc 7, 30.
Lisons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 7, au verset 30.
Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu.
Voilà. Les pharisiens et les docteurs de la loi ont résisté au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer le chemin de qui ? Le chemin du Seigneur Jésus. Afin que les gens, en se soumettant à Jean-Baptiste, ça leur soit simple de croire en Jésus. D'ailleurs, quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit à ses disciples, c'est maintenant lui que vous devez suivre, vous ne me suivez plus moi. Moi, j'étais là que pour lui préparer le chemin. Et Jean-Baptiste était un signe clair de Dieu. C'est pourquoi, à son époque, personne, mis à part l'emprisonnement et la mort qu'il a subi de la part d'Hérode, personne n'a osé le combattre. Parce que c'était clair que c'était le prophète du Seigneur. Mais par orgueil, par souci de pouvoir, les pharisiens et le docteur de la loi ont refusé de l'écouter. La conséquence, ça a été quoi? Quand Jésus est venu, est-ce qu'ils ont écouté Jésus? Non. Parce que quand c'était simple, Jean-Baptiste est venu dans la clarté, ils n'ont pas écouté. Eh bien, quand Jésus vient, ils n'ont pas non plus suivi. Donc, ils sont sortis du plan de Dieu. Et ils finiront en enfer. Mais tout a commencé quand ils ont résisté à Jean-Baptiste. Dieu vient te parler par un enfant de 14 ans, un jeune de 14 ans. Tu crois que si tu ne l'écoutes pas, tu écouteras quand un prophète puissant parlera, c'est faux. Tu seras impressionné par l'homme puissant qui va parler, mais tu ne seras pas changé. Parce que c'est la même parole, c'est la même puissance. Si c'est Dieu qui a envoyé un enfant de 14 ans te parler, si tu ne l'écoutes pas, même s'il envoie un homme de 60 ans, tu n'écouteras pas parce que c'est la même parole. C'est ce que Jésus a dit aux gens. Au riche qui était en enfer, le riche a dit à Jésus, je me suis retrouvé en enfer parce que j'ai négligé ta parole, la parole de Dieu. Mais envoie Lazare qui est au ciel, qu'il ressuscite et qu'il aille prêcher à mes frères. Parce que je pense qu'eux aussi vont tomber dans le même piège, ils vont résister à la parole. Vous savez pourquoi? Parce que la parole est simple. C'est des Écritures. Mais c'est la puissance de Dieu. La Bible dit que tout a été créé par la parole de Dieu. Et tout est soutenu aujourd'hui par la parole de Dieu. C'est simple. Quand on voit ce livre-là et on voit les faux pasteurs qu'on voit aujourd'hui avec des Rolls-Royce. J'ai vu même sur YouTube, il y a un qui, quand il va prêcher, il y a des chevaux qui le précèdent. Lui, il est dans sa Rolls. Il y a des motards, il y a des chevaux. Mais effectivement, quand on compare avec cette Bible, on trouve que c'est lui qui est impressionnant, cet homme-là. Mais le jour de la fin du monde, on se rendra compte que c'est cette Bible qui est la plus impressionnante de puissance du Seigneur. Parce que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est eux qui sont puissants, mais à la fin du monde, on verra bien que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Même ces gens-là, c'est la parole de Dieu qui les a créés. Mais aujourd'hui, ça paraît simple. C'est à cause de ça que l'homme riche était piégé. Il s'est dit, si un homme ressuscité d'entre les morts, les gens vont croire plus que si on lit tout simplement la parole. Quelle a été la réponse de Père Abraham? Le Père Abraham a dit, mais s'ils n'écoutent pas les Écritures, ceux qui lisent les Écritures, ils n'écouteront pas, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. Oui, ils seront impressionnés pendant un temps, mais ils n'écouteront pas. Pour être impressionnés, oui. Vous vous imaginez, depuis qu'on a on sert le Seigneur, combien de témoignages on a écoutés sur les gens qui sont venus de l'au-delà? Combien de témoignages avec des amis, avec des frères et sœurs? Et beaucoup de ces frères et sœurs, même, il y en a même qui nous ont amené ces témoignages-là, ils sont dans le monde. Ce n'est pas parce que le témoignage est impressionnant que ça va changer quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui change les gens. Si quelqu'un refuse la parole de Dieu dans la simplicité, il refusera, même si ça vient avec puissance, parce que c'est la même parole, ça ne change pas. Est-ce que vous pensez que, on va prendre un petit exemple, vous pensez que le piment qui est fort, si on vous le donne avec une fourchette, ça n'aura pas le même goût que quand on vous le donne avec une cuillère? Mais ça sera le même piment, ça va piquer de la même manière. C'est ça la vérité. Que le piment, tu le manges dans une assiette ou dans une casserole, ça aura le même goût. Donc la parole, qu'elle sorte d'un enfant de 8 ans, qu'elle sorte d'un homme de 60 ans qui fait des miracles, qui fait des sauts périlleux, ça sera la parole de Dieu. Ça ne va pas changer. Si tu résistes à l'une, tu résisteras à l'autre. C'est la même chose. C'est pourquoi Jésus a dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'acceptent pas la parole dans sa simplicité, ils n'accepteront pas dans sa complexité, dans sa puissance. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens qui ont résisté à Jean-Baptiste, ils ont résisté aussi à Jésus. Ils ont résisté à Jésus, mais quel miracle Jésus n'a pas fait? Mais à chaque fois, les gens étaient impressionnés. Mais est-ce qu'ils se sont convertis? Pas forcément, puisque dans Jean chapitre 2, Jésus dit, ils connaissaient leur cœur. Ils étaient nombreux à dire, nous croyons, mais ils ne croyaient pas. Ils connaissaient leur cœur. Ils étaient plutôt impressionnés, mais ils n'étaient pas, ils ne s'étaient pas convertis. Quand tu refuses la parole, quand elle vient dans la simplicité, et cette parole, vous savez, elle est venue dans la simplicité, dans ce qu'on voit là, la création. La lune, les étoiles, le soleil. Parce que la Bible dit que tout ça a été créé par la parole de Dieu. C'est la simplicité de la parole. Quand tu résistes à ça, quand la vraie parole viendra, la parole faite chair, Jésus lui-même est venu, tu vas résister encore. Quand cette parole viendra par prophétie, tu vas résister encore. Parce que déjà, ce que tu vois là, ne t'a pas suffisamment impressionné pour craindre Dieu. C'est ce que notre frère Paul dit dans Romains 1, à partir du verset 18 qu'on va lire. Romains 1, à partir du verset 18, il dit que si quelqu'un néglige la création, il négligera le reste. Puisque la création a été faite par la parole de Dieu. Quand Dieu vient dans sa simplicité, inclinons-nous. Soyons humbles pour nous incliner. Ça nous donnera accès à des révélations supérieures. Mais quand on résiste à ce qui est simple, on se ferme à ce qui est supérieur. Romains 1, à partir du verset 18.
Lisons Romains chapitre 1, verset 18.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
On continue ?
Car ce qu'on ne peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Voilà. Donc que dit la parole ? Mais les perfections de Dieu sont dans la création. La grandeur de l'univers, les étoiles, leur nombre, la grandeur de la terre, la mer, les océans, les courants marins, tout ça montre la grandeur de Dieu. Si devant ça, tu ne t'inclines pas pour dire « Seigneur, je m'incline devant toi », mais tu es en train de cacher la vérité, injustement. Et à cause de ça, on vient de lire, tes pensées tombent dans le, tu te gardes dans tes propres pensées, les ténèbres t'environnent. C'est ce qui s'est passé pour les païens. Ils ont vu la grandeur de la création, ils ont créé la théorie de l'évolution. Alors ils sont plongés encore davantage dans les ténèbres. Ils étaient déjà dans les ténèbres, mais là ils se sont plongés tout seuls encore davantage. Puisque ce que Dieu a fait est évident. L'amour de Dieu dans la création est évident. La beauté de Dieu, la gloire de Dieu est évidente. Mais les propres pensées de l'homme liées à l'orgueil, dans leur orgueil, ils sont en train de s'échafauder plusieurs théories. Ils finissent dans les ténèbres sans rien apporter. Leur cœur est endurci. Et je connais certains chrétiens qui disent, mais ah, mais tel monsieur, il fait des dons au resto du cœur. Il aide les pauvres. Dieu va l'envoyer quand même en enfer parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Oui, il ira en enfer parce qu'il n'a pas cru en Jésus. On ne peut être que sauvé par Jésus. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui sauvent les humains. C'est l'obéissance à Dieu. C'est se mettre dans la soumission à Dieu. C'est se ranger derrière Dieu. C'est ça qui est honnête. Cet homme-là est malhonnête. Il est malhonnête parce qu'il nie ce qui, l'évidence qu'il voit. Il est malhonnête. Il paraît être bon parce qu'il donne des choses aux gens. Mais il est rebelle dans son cœur. Il résiste à celui qui a tout fait. Est-ce que ça, ce n'est pas de l'injustice? Vous voulez dire quoi maintenant? Si quelqu'un donne le bien aux pauvres, mais que tous ces biens-là, il les a eus en tuant un riche, donc c'est bon? Il va, il tue un riche, il prend ses richesses, lui-même il vit comme un pauvre, mais il donne les richesses du riche, il distribue ça aux pauvres. Vous allez dire félicitations alors, puisqu'il a tué un riche et il aide maintenant les pauvres. Non, vous allez dire, il n'avait pas le droit de faire cela. N'est-ce pas ce que vous allez dire? Il n'avait pas le droit de faire cela. Même si ce riche-là, on ne sait pas, peut-être qu'il s'est enrichi par des malversations, il n'avait pas le droit de le tuer. Ça, ce n'est pas de son ressort. On va condamner cet homme, même s'il aide les pauvres. On va dire qu'il n'avait pas à tuer ce riche-là. Et donc aujourd'hui, on est d'accord qu'un homme dise que Dieu n'existe pas, qu'un homme dise que nous sommes venus par hasard, c'est pourquoi on peut aller dans l'homosexualité, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de maître, chacun fait ce qu'il veut, c'est pourquoi on peut prêcher l'euthanasie, tuer les gens qui se sentent mal, ils peuvent se tuer. C'est pourquoi on peut prendre les drogues les plus fortes qui existent, avec toutes les conséquences que nous connaissons. C'est pourquoi ça va finir par quoi? Ça va finir par la pédophilie. C'est pourquoi on doit baisser l'âge de majorité des enfants pour qu'on puisse en abuser tranquillement, légalement. Maintenant, cet homme-là, il est habillé simplement, il vous sourit, il vous dit bonjour chaque matin. Il vous aide quand vous avez des charges à porter dans votre maison. Vous allez dire qu'il est bon, malgré son déni de Dieu, malgré son choix de l'homosexualité comme étant quelque chose de vrai, de bon, malgré son choix de l'euthanasie, malgré le fait qu'il est en train de militer pour qu'on abaisse la majorité sexuelle à 13 ans. Mais puisqu'il vous sourit, puisqu'il vous aide, il devient bon. Non, soyons justes. Il n'est pas bon, il est méchant. Même s'il vous sourit, même s'il vous fait du bien, il est endurci dans son cœur. Il refuse le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il lui résiste. C'est un méchant. Et un jour, vous verrez sa méchanceté. Vous ne voyez pas cela aujourd'hui, mais un jour, vous allez voir cela. Dieu nous prévient. L'endurcissement enlève l'intelligence. Nous-mêmes, nous devons sortir de l'endurcissement. On doit cesser de croire que de telles personnes sont bonnes. Elles ne sont pas bonnes. Elles sont méchantes puisqu'elles résistent à Dieu. Dieu est amour. Dieu a donné son Fils Jésus comme preuve de son amour pour tout humain. Quand quelqu'un résiste à ça, c'est quelqu'un de méchant. On ne peut pas dire qu'il soit bon. Quelqu'un donne son Fils pour toi et tu résistes à cet amour-là. Tu veux dire que tu es bon? Mais non, tu n'es pas bon. Vous savez, quand vous donnez à quelqu'un, nous on a ça, des problèmes comme ça, dans les... qui n'a pas ça dans la famille? On a des membres de famille à qui on a donné de l'argent, qu'on a aidé, mais ils continuent toujours à nous critiquer. Il continue toujours à polémiquer, à créer des problèmes dans la famille. Dans toutes les familles, il y a toujours un énergumène qui est dans ce sens-là. C'est fait exprès pour que nous puissions nous humilier, prier pour... Il y a toujours un dans la famille, vous allez tout lui faire. Lui laisser la voiture du père qui a laissé. Lui laisser... tel héritage familial. Vous allez l'aider même à faire des études. Mais après les études, il attend encore que vous l'aidiez à trouver le travail. Vous allez l'aider à trouver du travail. Après le travail, il attend que vous l'aidiez à déménager. Donc, c'est sans fin. Il va toujours vous critiquer que vous ne faites pas, grand-chose. Mais bien aimé, quand quelqu'un est comme ça, ça veut dire que c'est lui qui est mauvais. Parce que quand quelqu'un, à ses yeux, le bien devient mal, il est comme en lui-même. Il a un problème. Si je vous disais que maintenant, dans la salle, on est à quatre, vous avez dit que qui a un problème? C'est moi. Je crée même un débat en disant on n'est que quatre ici. Vous avez dit, le monsieur là, il a un problème. Le bien qui est visible, vous faites du bien à quelqu'un. Vous l'aidez à faire des études, vous l'aidez à manger, vous l'aidez à déménager, vous l'aidez à faire tout, mais continue toujours à dire que vous êtes mauvais. Donc, qui est mauvais dans ce cas-là? C'est la personne elle-même. Donc, malgré tout le bien que Dieu a fait en créant l'univers, la beauté, ils en profitent quand il faut aller à la plage en Thaïlande, le sable fin blanc. Ils en profitent, il n'y a pas de souci. Quand il faut aller en Martinique, la mer bleue, pas de problème. Mais dès qu'il y a tremblement de terre, tsunami, pourquoi tu dis Dieu existait, il y a tout ça. Mais quand c'est bon, vous en profitez. Donc, ils profitent de tous les bienfaits de Dieu. Ils ont profité de son Fils. Dieu a envoyé son Fils pour le salut de l'humanité, le salut de tout le monde. On en a profité. Après, on dit que Dieu est mauvais. Qui est mauvais dans ce cas-là? C'est l'homme qui est mauvais. Et c'est l'homme qui est mauvais qui va juger les critères pour le jugement dernier. C'est lui qui va décider les critères. Ah, je pense que... Mais toi qui dis « je pense que » là, tu es déjà mauvais. Tu es incapable d'être poli. Tu es incapable parfois d'obéir aux parents. Tu es incapable de faire du bien à tes enfants. Tu es incapable de respecter le feu rouge. C'est toi maintenant qui vas dire, bon, je pense que Dieu s'est trompé dans tel endroit. Mais toi-même, tu es un escroc politicien. Bien-aimé, c'est des gens qui seront brisés sans remède. Voilà ce que dit Proverbe 29.1. Ils raidissent leur cou. La vérité est simple. Est-ce que tu sais que plus tu perds du temps à lâcher ta vie entre les mains de Dieu, à t'abandonner entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui subissent par résistance à Dieu. Parce que c'est des gens, si toi tu te convertissais totalement, eux ils seront sauvés par toi. Mais à cause de toi, ils attendent. Tu es méchant. Tu vas dire, ce n'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi le péché. Est-ce que tu as demandé l'aide de Dieu? Demande l'aide de Dieu. Arrête la méchanceté. Bien-aimé, c'est la fin de temps. Je vous dis clairement, si tu es dans ce cas-là, tu es méchant. Parce que si toi tu te convertissais, grâce à toi, beaucoup vont se convertir aussi. Mais tu es dans ton égoïsme, en train de faire beaucoup de raisonnements. Ah oui, mais tu n'es pas capable même de te donner le souffle de vie. Sois simple, humilie-toi, reconnais ta petitesse et demande l'aide de Dieu, que les choses changent dans ta vie. Il est tout puissant pour le faire. Dieu est bon. Et quand tu le vois mauvais, c'est toi qui es mauvais. C'est ça la vérité. C'est ça la résistance. Après, on devient endurci, insensible. On connaît beaucoup de gens qui sont devenus insensibles. Hein, avec le, ils ont détruit leur papille gustative. À force de manger des piments forts, piments forts, piments forts, piments forts. Au début, c'était la dose 15. Après, c'est la dose 20. Après, c'est la dose 30. Après, il n'a plus de goût. C'est comme ça que certains sont devenus paralysés de la langue par rapport à l'alcool. Au début, c'était le vin. Ensuite, Cinzano, je sais quoi, Martini. Après, je ne connais pas, Johnny Walker, tout ça. Ça monte. C'est des gens qui peuvent... Ils boivent ça comme si tu buvais du jus de canneberge. Mais à un moment donné, même ça, alcool 45 degrés, ça ne lui suffit plus. C'est maintenant alcool 70. Jusqu'à 95 degrés. En ce moment-là, la langue, je vous dis, c'est déjà détruit. Donc la personne s'est endurcie, il n'y a plus de goût. Il ne lui reste plus que la mort. Il n'y a plus de goût. Donc il peut boire du poison, il trouve que c'est bon. Voilà quelqu'un d'endurcie, ce qu'il devient. La personne endurcie commence ce qui est écrit, ce n'était pas prévu dans Ésaïe 5, 20, c'est écrit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien ». Quelqu'un d'endurci, il finira par appeler le mal bien, le bien mal, parce que son goût est détruit. Il n'a plus le goût à discerner les choses. Il a trop résisté. Il a trop résisté. Et nous, nous sommes là à justifier certains. Non. En disant, mais ils ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas parce qu'ils se sont endurcis. C'est parce qu'ils se sont endurcis. Et il est écrit, aujourd'hui, quand tu entends sa voix, n'endurcis plus ton cœur. Parce que ça peut aller loin. Tu peux devenir sans goût. Tu n'as plus de sentiments. C'est ce qui est écrit, on a lu tout à l'heure. Ils n'ont plus de sentiments dans Éphésiens 4, 17. Comme on a dit pour quelqu'un qui est esclave de l'alcool, il n'a plus. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus esclaves du mensonge. Ils ne savent plus maintenant c'est quoi la vérité. Il va dire à une femme là-bas, je suis juriste. À l'autre, il va dire, je suis médecin. À une autre encore, il va dire informaticien. Donc, il ne sait plus. Esclave du mensonge. On avait un ami comme ça, au Maroc. Il va dire là-bas, je suis médecin. Il change là-bas, juriste. Et il oublie que certains témoins étaient là. Informaticien. Donc, il n'y a plus de goût. Tout a été détruit. Le discernement a été détruit par l'endurcissement. Attention à l'endurcissement. Et on se trompe par des fausses pensées en disant, mais oui, ce n'est pas de ma faute, j'ai été violé, ce n'est pas de ma faute, on m'a donné l'alcool quand j'avais 14 ans, ce n'est pas de ma faute, ma femme s'est mal comportée, c'est pourquoi j'ai pris une deuxième, ce n'est pas de ma faute. Non, ça, c'est des faux raisonnements. Je vais lire Éphésiens encore 4, 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils n'ont plus de sentiment. Ils se sont endurcis. Il y a des gens qui peuvent voir quelqu'un mourir de faim, mais ils se sont endurcis en disant chacun se débrouille dans la vie. Après, il va venir prier à l'église. C'est l'endurcissement. Au moment où tu peux aider quelqu'un, simplement tu ne l'as pas fait. Mais l'endurcissement va monter. Et un jour, ça sera encore plus facile d'aider, mais puisque tu t'es endurci, même donner 1 euro à quelqu'un devient compliqué pour toi. Tu t'es endurci. L'endurcissement est dangereux, ça fait perdre tous les repères. Tu n'as plus de repères, tu deviens fou, sans goût, sans sentiment. Combien de fois on ne s'est pas étonné de voir un homme avec plusieurs foyers et ses enfants être très malheureux et ses enfants qu'il aimait beaucoup. Mais aujourd'hui, on comprend, c'est l'endurcissement. Quelqu'un dans son égoïsme, il s'endurcit. La souffrance des enfants, ça ne pèse plus pour lui. Attention à l'endurcissement. Ça vient petit à petit, il faut résister à cela. L'endurcissement fera que quand Dieu viendra dans sa puissance clairement, tu ne vas quand même pas accepter. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 12, 38, 45, nous allons lire ce que Jésus dit. On lui dit, fais-nous un miracle. Il dit, mais oh, je peux faire le miracle que vous voulez, vous n'allez quand même pas changer. Vous êtes déjà endurci. Matthieu 12, 38 à 45. L'endurcissement, c'est quelque chose.
Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38.
Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas.
Amen.
La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première.
Voilà la situation. Jésus explique le phénomène de l'endurcissement. C'est-à-dire qu'on vient t'éclairer, mais tu négliges. L'esprit là qui te bloquait va venir encore avec 7 autres esprits et vont te rendre encore plus dur à convaincre. C'est ça qui se passe. Combien de gens ne connaissent pas la parole aujourd'hui? Ils sont devenus même des spécialistes, mais ils sont dans le péché. Ils trouvent toutes sortes d'excuses en disant que les pasteurs sont de faux, ceci, cela, mais ils sont dans le péché. Et les esprits qui les entraînent sont devenus encore plus forts parce qu'ils connaissent, ils ont été éclairés. Mais ils ont résisté au changement. Ils n'ont pas voulu changer. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois renoncer. Si tu es dans l'alcool, dans tout ce qu'on a cité, dans tu as concubinage, tu as une maîtresse alors que tu es marié, tu es dans les sites compliqués sur Internet, si tu es dans toutes ces choses-là, aujourd'hui, il faut renoncer. Dieu t'a vu. N'endurcis pas ton cœur. Si tu es dans l'impolitesse, c'est le moment de renoncer et de commencer à obéir aux parents. Si tu n'as pas de force, demande l'aide de Dieu. Si tu es dans les magouilles, quelles que soient les magouilles, le Seigneur dit, aujourd'hui que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Celui qui endurcit son cœur sera brisé. C'est pourquoi parfois on s'étonne de ce qui arrive à certains membres de nos familles, parce qu'ils ont endurci leur cœur, ils ont été brisés fortement. Et nous, on est les premiers à pleurer. Mais oui, parce qu'on ne comprend pas la justice de Dieu. Mais c'est des gens qui résistent à Dieu, qui s'endurcissent. Toutes les excuses que tu te donnes, c'est le moment de renoncer à ces fausses pensées-là, de revenir à la simplicité de la parole. Et Dieu est prêt à t'aider. Je parle aussi même aux gens qui se pensent chrétiens. Ça existe aussi l'endurcissement. C'est-à-dire que tu ne crois pas en Dieu simplement. Dieu est pour toi un concept religieux. Ce n'est pas bon. Tu vas t'endurcir aux vérités puissantes et tu ne pourras pas être efficace en tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Tu ne produiras pas de fruits. Or, le Seigneur dit que celui qui ne produit pas de fruits, il coupe. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un héritage de fruits à produire. Lisons dans Matthieu 6, Marc plutôt 6, 45 à 52. Marc 6, 45 à 52. Pour voir que même les gens de Dieu peuvent être endurcis.
Lisons la parole de Dieu dans Marc, chapitre 6, à partir du verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci.
Parce que leur cœur était endurci, ils n'ont pas compris le miracle des pains. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Que quand ils ont vu le miracle de pain, les disciples devaient reconnaître que Jésus est fils de Dieu. Qu'il est Dieu. C'était évident. 5 pains et 2 poissons qui arrivent à nourrir 5 000 personnes devaient leur faire comprendre qu'on a affaire à lui-même, le fils de Dieu. Le miracle, c'est bien, mais ça a un enseignement. Quand tu ne saisis pas l'enseignement du miracle, tu t'endurcis. Jésus multiplie les pains et il mange seulement. Donc c'est ça les hommes. Dieu te guérit, c'est fini, allez, tu commences à t'habiller, sauter. Il y a un enseignement. On te donne un bon boulot, ça y est, projet d'une nouvelle Mégane. Non, mais Quel est l'enseignement de Dieu quand tu te fais du bien? Il y a un enseignement à chaque fois quand tu te fais un miracle. Il y a un enseignement. Quand tu ne saisis pas cet enseignement, tu t'endurcis. Et quand viendra un éclairage ultérieur, tu ne comprendras pas parce que tu t'es endurci. La Bible dit que les apôtres du Seigneur étaient endurcis parce qu'ils n'avaient pas saisi le Seigneur quand ils ont vu le miracle des pains. Et donc quand Jésus maintenant marche sur l'eau, ils sont déstabilisés. Et là, Jésus dit, mais comment? Jusque-là, vous n'avez pas compris à qui vous avez affaire. Votre cœur s'est endurci parce que vous n'avez pas saisi. Parce que, étant des Juifs, ils avaient du mal à accepter que quelqu'un soit le Fils de Dieu. Leur doctrine juive traînait encore dans la tête. Malgré tout ce qu'ils avaient vu avec le Seigneur, ils avaient du mal à accepter. Et ça créait un endurcissement. Donc, à chaque fois, il fallait qu'ils soient étonnés encore. Maintenant, que dire? Les endurcis sont-ils perdus à jamais? Non, tant qu'ils sont vivants, Dieu peut changer les choses. Mais l'avertissement est donné, Hébreux 3. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est la première chose. Si tu as entendu la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Humilie-toi. Demande l'aide du Seigneur. Dis, Seigneur, je suis conscient que le chemin que je prends est un chemin de contestation, est un chemin d'égoïsme et de rébellion. Parce que c'est toi qui m'as créé. Alors, reprends ce que tu as créé. Prends le contrôle de ma vie. Je veux voir qui tu es. Et il t'aidera. Il n'est pas venu perdre les gens, il est venu les sauver. Deuxième chose, vous les chrétiens, nous les chrétiens qui sommes là à trouver des justifications aux gens qui se perdent, ça suffit comme ça. Dieu dit à Ézéchiel, je t'envoie vers des gens qui vont être rebelles. Ils ne font pas croire. C'est des gens dont le cœur est endurci. Parce qu'on ne va pas tout lire tous les textes. C'est dans Ézéchiel chapitre 3. Mais qu'est-ce qu'il dit à Ézéchiel? Je vais rendre ton cœur plus dur. Ton front plutôt. Plus dur que leur cœur. Je vais te donner un front en diamant. Comme ça, tu peux résister à leur endurcissement. Bien-aimé, devant l'endurcissement du monde et des gens qui nous entourent, qu'est-ce que nous avons trouvé comme solution? C'est d'adoucir l'évangile. De chercher d'édulcorer l'évangile, de diminuer la vérité pour la faire passer. Ah non, Dieu a dit Ézéchiel, au contraire, je te donne un front en diamant. Comme ça, tu résistes à leur cœur dur pour pouvoir briser ce cœur dur. C'est ça notre responsabilité. On doit dire les choses dans la vérité. Pas dans le but de blesser, mais parce que la vérité sauve. On doit dire les choses clairement à la personne qu'on trouve qui est endurcie dans quelque chose. On doit dire la vérité aux endurcis. C'est comme ça qu'on peut participer au changement. Troisième chose, il y a les prières. Le Seigneur nous promet dans Ézéchiel 36, 26 qu'il peut transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Puisqu'il y a la promesse, nous devons prier sérieusement pour les endurcis. Nous devons arrêter de faire confiance à nos propres efforts. Nous devons faire confiance en Dieu. Après avoir dit la vérité clairement, nous devons aussi penser à la prière. Prier pour que Dieu touche leur cœur, change leur cœur. Prier pour que Dieu nous donne la paix, qu'on ne soit pas déstabilisé par leur cœur dur. Vous savez, quand j'ai vu une église chinoise détruite par les autorités chinoises sur YouTube. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Moi qui suis ici, j'étais déjà en douleur. Alors je me suis imaginé les chrétiens qui étaient sur place, c'était comment? Oui, nous devons prier que Dieu nous donne la paix, qu'il nous donnera la facilité de prier pour les endurcis. Parce que les endurcis peuvent déstabiliser par leur cœur dur, par leurs actes méchants, inconsidérés. Ils peuvent déstabilisés par leur constance dans la résistance. Mais prions que Dieu nous donne la paix, qu'on les aime malgré tout et qu'on prie pour eux. Dieu peut transformer le cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça, bien-aimé. Nous devons prendre en charge le problème des endurcis. Nous ne devons pas nous dire c'est fini. Non, du moment qu'ils sont vivants, tout est possible. Seul Dieu connaît ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit. Nous, on ne les connaît pas. Nous, on doit considérer que le salut est possible pour toute personne. Et troisièmement, Proverbe 29 nous l'a dit clairement, ceux qui résistent seront brisés soudainement. Alors ne t'étonne pas quand cela viendra. Résister à Dieu amènera une cassure soudaine. C'est pourquoi je reviens encore sur Hébreux 3. Aujourd'hui, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le chrétien qui entend sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Renonce à l'insoumission vis-à-vis de ton mari. Il y a des gens qui sont spécialistes d'arguments pour justifier leur insoumission. La Bible dit, femme, soyez soumise. Renonce à la rébellion vis-à-vis des parents. Renonce à ça. Aujourd'hui, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Renonce à écouter les pasteurs de prospérité qui prêchent l'argent à tout va. Ils sont dans le mensonge. Tu trouves des justifications pour dire qu'ils disent, ils citent le nom de Jésus. Citer le nom de Jésus, ça ne veut pas dire être dans la vérité. Matthieu 7 dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Oui, mais ils ne sont pas dans la vérité parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit, vous avez donné gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Renonce à tous ceux qui prêchent le potentiel personnel. Non, nous, on n'a pas de potentiel. Ce qui compte, c'est ce que Jésus nous donne. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout celui qui te prêche ton élévation personnelle est dans le faux. Un seul doit être élevé, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Renonce à écouter de telles personnes. Tu te justifies en disant, mais je suis libre. Oui, mais dans ta liberté, là, tu es dans la rébellion. Renonce. Ce qui est clair dans la parole, bien-aimé, acceptons ça. Il est écrit, ce verset-là me fait toujours peur, dans Amos 8, 11. Dans les derniers temps, les gens chercheront la parole. Dieu va envoyer une crise de la parole, une disette de la parole. Les gens chercheront la parole et ne la trouveront pas. Ça veut dire quoi? Tu vas voir la Bible, tu lis, mais tu ne comprends pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui explique. Maintenant que c'est clair, change de vie. Mais viendra un temps où ça sera même plus clair. Quand c'est clair, Jésus a dit, quand il fait jour, c'est l'heure de travailler. Travaillons quand il fait jour. Quand la parole de Dieu est claire pour toi, obéis. Renonce aux choses floues. Je n'ai pas dit que tu vas te devenir parfait par toi-même. Non, renonce et demande l'aide de Dieu. Reconnais la vérité. Repens-toi et demande l'aide de Dieu. Sinon, tu seras brisé soudainement. N'endurcissez pas le cœur. Revenons à la vérité. Ce qui est dit clairement, saisi clairement, c'est le moment de mettre cela en pratique. Choisissez qui vous voulez servir, dit Josué. Je vais répondre à quelques questions. Comment on fait pardonner certaines personnes qui étaient au courant de ce que j'allais apporter aujourd'hui? Ben, si on n'arrive pas à se sortir d'un péché, malgré le nombre de prédications et d'avertissements entendus, cela signifie-t-il que le cœur est endurci? Effectivement, fortement endurci, fortement endurci. Et donc nous devons prier pour de telles personnes que le Seigneur puisse changer le cœur de pierre en cœur de chair. Celui qui a le cœur endurci, en a-t-il conscience? Pas vraiment. Il croit même être dans le droit chemin. Comme on a dit, sa langue, pour ceux qui mangent du piment ou bien qui sont dans tout ce qui est alcool, mais sa langue n'a plus de goût. Il croit que c'est bon ce qu'il fait. Et c'est ce qui parfois nous déstabilise. On dit, mais ces gens-là sont tranquilles dans leurs bêtises. Mais c'est l'endurcissement. On se dit, mais s'ils sont tranquilles, c'est que Dieu est avec eux. Non, Dieu n'est pas avec eux. L'endurcissement enlève le goût. Donc la personne peut être tranquille, mais c'est l'endurcissement. Un point, c'est tout. Il y a des gens qui sont tranquilles quand ils font un casse. Ils cassent une banque. Ils sont tranquilles. C'est l'endurcissement, c'est tout. Ça enlève le sentiment. Ça peut même enlever le sentiment de peur. C'est l'endurcissement. Donc nous devons prier. Vous savez que quand plus on s'endurcit, plus la conscience devient difficile à revenir. Donc c'est pourquoi nous avons dit que nous devons prier fortement pour ces personnes-là. L'endurcissement du cœur, est-ce synonyme de perdition? Est-ce que c'est irréversible? Ce n'est pas irréversible. Mais c'est synonyme de perdition, mais c'est réversible. C'est pourquoi, heureusement qu'il y a des versets aussi, Romains 5, 20, qui nous dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Nous devons prier pour que la grâce surabonde pour ces gens-là, afin qu'ils reviennent au Seigneur. Est-ce qu'un chrétien normal peut savoir si quelqu'un est endurci? Oui, oui, il peut le savoir. Parce que la personne résiste à la parole de Dieu. Toute simple. Toute simple. C'est ce que Paul dit, ils sont pris par les vains raisonnements inutiles. Alors que la parole de Dieu est simple, ils n'arrivent pas à saisir ça. Peut-on être avec un cœur dur où il le devient? On est tous dans le péché, mais on s'endurcit au contact de la vérité. Au contact de ce qui est bon, quand on résiste à ça, on s'endurcit comme ça. C'est-à-dire, c'est le contact avec la manifestation divine qui nous endurcit. C'est pourquoi dans certains versets, on dit que c'est Dieu qui a endurci. En réalité, donc, c'est le contact avec lui. Quand tu es au contact et que tu ne cèdes pas, tu t'endurcis. Et ton cas devient de plus en plus grave. C'est le moment de céder à Dieu. Tel que tu es, tu reconnais tes erreurs, tu reconnais tes mauvais penchants, tu reconnais... vous savez, il y a des gens qui veulent croire en Dieu que lorsqu'ils vont voir des grands anges au milieu de nous, et c'est des chrétiens, ils ne sont bien que quand il y a des manifestations surnaturelles, c'est des gens qui sont endurcis. La parole simple n'a plus d'effet pour eux. Jean-Baptiste était un grand prophète du Seigneur, mais n'a pas fait des miracles surnaturels. C'est Dieu qui décide quand il fait ses miracles. Ce n'est pas à nous d'obliger Dieu à faire les choses à notre manière. Et beaucoup se sont endurcis comme ça par rapport à la parole de Dieu. Nous allons prier contre tout cela, que Dieu change, que j'accepte, que tu acceptes la parole de Dieu toute simple telle qu'elle est et qu'elle est toute puissante pour changer les vies. Nous n'allons pas demander aux gens de passer devant. Que personnellement, si tu reconnais que tu étais dans un endurcissement quelconque, là où tu es, que tu te repentes, que tu dis « Seigneur, je veux changer. Dieu t'appelle. » Que Dieu nous bénisse. Amen.